Je vous invite déjà à prendre vos Bibles dans Marc 10, et on va lire les versets 13 à 16. On va essayer de faire un message un peu dans la continuité de ce qu'a apporté Jorgen ce matin. On voit aujourd'hui que les enfants, c'est un peu le centre de ce message, et quand vous voyez qu'on a ça qui est posé ici, on se rend compte qu'on est content d'avoir nos petits avec nous, même si là, ils nous ont laissés pour un temps ensemble. Et quand Jorgen m'a partagé qu'il allait parler un peu sur ce thème, du coup, c'est tout de suite ce passage qui m'est venu à l'esprit, où on amène des enfants à Jésus. Donc je vais lire Marc 10, versets 13 à 16. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. C'est un passage qu'on connaît tous, je pense, plutôt bien, qu'on a souvent lu. Déjà, la base de ce passage, évidemment, c'est sur les petits-enfants. Et ce matin, on pourrait être là et dire « Bonne fête à toutes les mamans » et se concentrer sur les mamans. Mais évidemment, déjà, ce serait un peu excluant pour tous ceux qui ne sont pas des mamans. Et si vous ne l'avez pas remarqué, je ne suis pas une maman. Et ce serait excluant pour ceux aussi qui n'ont pas d'enfants. Et c'est vrai que là, on parle beaucoup des enfants et certains n'en ont pas ou n'en ont pas encore. Mais ce qui est important, c'est que le passage ne démarre pas avec des parents qui amènent des enfants. C'est marqué « on lui amena des enfants ». Dans d'autres versions, c'est marqué « des gens ». Mais qui sont ces gens ? Qui sont ces personnes qui viennent amener des enfants ? Alors dans le tas, je suis sûr qu'il y a des parents, il y a certainement des mamans, des papas, peut-être des oncles, des tantes, peut-être des amis de la famille. Vous avez tous, je pense, dans votre tête, des personnes qui peut-être ne font pas partie de votre famille d'un point de vue, on va dire, charnel, du point de vue des liens du sang, mais qui ont toujours fait partie de votre entourage, de votre éducation peut-être. Dans certaines cultures, on a aussi des parrains, des marraines qui, même si par exemple ne sont pas des membres de la famille à part entière, ont une certaine responsabilité et partagent la vie des enfants. Et ce qui est important, c'est que ça montre aussi que vous pouvez ne pas avoir d'enfants, mais avoir un rôle quand même. Ces personnes-là viennent amener des petits-enfants à Jésus. Ces personnes-là, on pourrait les appeler en quelque sorte des parents spirituels. Et quelle que soit notre position, quel que soit notre âge, que nous soyons en âge d'avoir des enfants, que nous ne soyons pas encore en âge d'en avoir, ou qu'on en ait déjà eu il y a bien longtemps, on peut toujours avoir ce rôle et cette position de parent spirituel. Et ces parents spirituels, ils ont un rôle important parce qu'ils ont une certaine foi. Ils amènent des enfants à Jésus afin qu'il les touchât. Quelle foi il faut avoir pour amener des petits-enfants à quelqu'un ? Et on retrouve un peu cet exemple dans une femme qui était malade et qui cherchait simplement, si vous vous souvenez, elle était atteinte d'une perte de sang, elle cherchait simplement à toucher Jésus, à toucher le bord de son vêtement. Elle était persuadée en elle-même, elle se disait « Si seulement j'arrive à le toucher, je serai guérie. » Cette fois-là, de se dire que Jésus, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas juste quelqu'un qui est venu et qui parle bien, mais c'est quelqu'un qui en lui a une puissance, qui a autre chose que le reste des hommes, et qui nécessite qu'on lui amène des enfants, qu'on lui amène sa propre personne également, hein, plein de personnes sont venues voir Jésus. Mais ces personnes-là ont fait un geste de foi et sont venues apporter ces enfants à Dieu. Et tous ici, autant que nous sommes, on peut être parents ou pas, on a ce rôle aussi. Vous pouvez avoir des enfants dans votre entourage, et vous pouvez avoir des personnes qui, dans votre entourage, ne sont pas non plus des enfants. Mais on a cette responsabilité d'essayer de les amener à Jésus. On est tous d'accord que si demain à Mâcon ouvre un restaurant, et que ce restaurant, vous y allez, et il est extraordinaire, il est pas cher, on est servi vite, on y mange merveilleusement bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez rentrer chez vous, vous allez en parler à vos amis, à vos collègues, à votre famille, vous allez dire « On a trouvé une adresse super, c'est pas cher, c'est très bon, c'est génial. » Vous allez partager cette nouvelle. Et là, on a Jésus qui vient, qui guérit des gens, qui parle comme personne n'avait parlé avant et qui fait des choses extraordinaires. Et les gens ont ce même réflexe de partager. Mais autant, moi, j'entends au travail, en salle des profs, par exemple, beaucoup de gens partager sur le match de la veille, sur le petit verre qu'ils ont pris en terrasse, parce que ça y est, les terrasses sont rouvertes. Mais j'en entends très peu dire « J'ai été dans une église dimanche dernier. Il y avait un message, c'était bien, j'ai entendu parler de Dieu. » Ça, on ne le partage pas. Mais ces gens-là ont fait le choix d'amener des enfants à Jésus. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont repris. Et ils sont repris par qui ? Par les disciples. Mais c'est qui les disciples ? Alors si je commence à dire « c'est nous », on va peut-être se sentir accusé. Et on peut dire que ce matin, personne n'a repris les enfants qui étaient présents ou qui faisaient du bruit. Mais ça montre que déjà à l'époque, tout le monde n'était pas forcément aussi ouvert que maintenant. Que si quelqu'un d'important venait et parlait, il fallait pas qu'il y ait un enfant qui pleure dans un coin. Vous avez peut-être eu la chance tout à l'heure d'entendre légèrement Jean-Baptiste en fond. Mais on n'est pas dans un endroit où on vient nous voir et on vient vous dire « bon ben, allez voir ailleurs s'il vous plaît ». Les disciples les reprirent. Mais heureusement, Jésus ne laisse pas faire. On veut les empêcher. On veut étouffer l'esprit quelque part. On veut croire que Dieu n'est pas accessible. À quel âge peut-on parler de Dieu à un enfant ? C'est une bonne question. À quel âge est-il en capacité de comprendre ? Est-ce que nous, par exemple, bon, Jean-Baptiste, il a 4 mois, est-ce qu'il est en capacité de comprendre quand on prie, quand on loue ? Alors, vous avez entendu tout à l'heure qu'il essayait de louer en même temps que nous, avec ses mots à lui. Mais cet exemple-là montre que parfois, on a ce discours-là de dire « Ah ça, tu verras plus tard. Ah, tu peux pas comprendre encore. Tu comprendras quand tu seras grand. » Et autant c'est une bonne chose en tant que parent de priver ses enfants de certaines choses. Par exemple, on va pas leur montrer n'importe quel film. On va faire un tri en se disant « Non, ça, tu es trop jeune, tu es trop petit. » Pareil pour les livres qu'on va leur donner. Voilà, je vais pas donner du Descartes à lire à ma fille qui commence à déchiffrer des oui-oui. Donc c'est normal de faire un certain tri et d'avoir un rôle de responsable, d'éducateur. Mais par rapport à Dieu, à quel âge les enfants peuvent-ils avoir accès à Dieu ? On a un exemple tout bête. Est-ce que vous vous souvenez quand Élisabeth a été visiter Marie ? Il avait quel âge l'enfant ? Il avait moins quelques mois, si tant est que ce soit possible. Il était dans le ventre d'Élisabeth et déjà c'est marqué dans la parole qu'il tressaillait. Voilà l'âge, le bon âge, l'âge biblique, auquel on peut parler à un enfant dès qu'il est déjà dans le ventre de sa mère. Tout comme Dieu disait à Jérémie qu'il le connaissait aussi, déjà quand il était dans le sein de sa mère. On a cet exemple aussi dans d'autres situations aussi que les enfants. Parfois on se prive de parler de Dieu, parfois on se prive d'amener les gens à Dieu parce qu'on se dit « ça sert à rien, lui je le connais ». Ah, je pourrais lui parler en long, en large, en travers. Le Saint-Esprit pourrait me mettre les meilleurs mots dans la bouche qu'il ne m'écouterait pas. Est-ce que vous n'avez pas déjà pensé ça ou est-ce que vous n'avez pas déjà fait ce genre de choses ou dit ce genre de choses ? On a l'exemple dans les premiers temps de l'Église avec les païens. C'est Dieu qui, quelque part, va leur pousser un peu à sortir de leur milieu juif et d'aller parler aussi aux païens, de ne pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. Il va falloir comme ça les pousser un peu parce que, au début, certains se disent, non, les incirconcis, c'est pas pour eux la bonne nouvelle. Alors, faisons attention à cela. Est-ce que ça peut nous arriver peut-être ? Est-ce qu'on peut dire, non, mais on va évangéliser là-bas, mais là-bas, c'est que des musulmans, ils vont pas nous écouter. On peut le penser, mais c'est clairement pas le message de notre Dieu. C'est clairement pas le message de Jésus. Il n'est pas venu en disant « Je viens parler au peuple juif, je viens parler aux hommes uniquement à telle tranche d'âge, de 30 à 50 ans, les autres ne m'intéressent pas. » Il est venu pour tous, sans faire exception de personne. Que ce soit des petits-enfants, qui ont peut-être une compréhension limitée, que ce soit des étrangers, puisqu'il a parlé aussi aux ennemis du peuple juif, les Samaritains, que ce soit même pire que ça, des Romains. Vous imaginez ? Les Romains, c'était l'occupant, l'envahisseur. C'est comme si, il y a quelques décennies, où vous alliez dire, bon bah, moi je vais aller faire du bien à des nazis, je vais aller leur apporter un repas à manger, je vais aller prier et chanter avec eux. On vous aurait considéré comment ? Des soldats allemands qui sont sur le terrain. Vous les voyez, ils sont dehors, ils ont chaud. Vous dites, bon, je vais leur donner à boire. Avec quel œil les gens vont vous regarder ? Les Romains, c'était la même chose à l'époque. C'était l'occupant. Et Jésus a guéri des Romains. Jésus a même loué la foi de certains Romains. Il ne fait pas exception de qui que ce soit. Même l'envahisseur. Et même les petits-enfants. Alors à nous aussi de faire de même et de pas faire de tri de personnes, ou de pas faire de tri selon l'âge. Si je raconte une histoire de la Bible à mes enfants et qu'ils la comprennent pas, c'est pas grave. Ils la comprendront bien un jour. Ce message, il est pas de moi. Il vient pas de mon intelligence, de ma sagesse, de mon expérience. Il vient simplement de la Bible. C'est Jésus qui dit « Ne les empêchez pas ». Et autant sur certains thèmes, on peut parfois débattre, on peut parfois être en désaccord, interpréter dans un sens ou dans un autre, autant beaucoup de paroles de Jésus sont parfaitement simples et claires. Ne les empêchez pas. Mais il va plus loin que ça. C'est pas juste laisser venir les enfants, laisser les jouer, tout comme Aria tout à l'heure faisait du coloriage au pied de son père. C'est pas juste ça. L'enseignement va plus loin. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Est-ce que vous ressemblez à un enfant ? Alors quand je pensais à ça cette semaine, je pensais à ce message, bah, souvent la nuit, parce qu'il se trouve que quand on est parent, des fois la nuit, on peut être debout, il y en a qui doivent savoir ce que c'est, et je me disais, faut que je ressemble à ce bébé. Mais comment ? Alors, un bébé, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous décrire un petit peu ce que c'est. C'est égoïste, ça ne pense qu'à lui. Alors, qu'à peut-être pas, mais je peux tomber devant lui, il va pas bouger. Il va pas me donner la main. S'il a faim, vous l'avez entendu tout à l'heure, il pleure. Normal, il a faim, il est pas bien. Mais on peut lui dire, ça vient dans 2 minutes, attends qu'on le prépare, est-ce qu'il s'arrête de pleurer ? Non, il pleure pour autant. Allez dans un restaurant, le serveur vous dit, j'en ai pour 2 minutes. Je sais pas quel restaurant c'est, mais même dans les meilleurs fast-food, 2 minutes, je crois pas qu'on soit servi. Et là, pendant 2 minutes, vous vous plaignez et vous râlez. Mais quand même, j'attends, j'ai faim, hein. Ce serait bien de m'apporter à manger. Et donc il peut hurler jusqu'à ce que, enfin, ce biberon touche ses lèvres et là, ça va. Voilà, on doit ressembler à ça. Un bébé qui ne pense qu'à lui, qui est impatient, qui est colérique. Parce que laissez-le pleurer un peu et vous allez voir. Bon, beau programme hein, ce matin. Mais évidemment, ce n'est pas que ça. Et je ne résume pas ce bébé à ça parce que si je dis qu'il n'est que égoïste, bah, allez lui parler un peu, il va vous faire des sourires, il va vous faire des câlins, donc il y a quand même autre chose. Mais je me disais, comment leur ressembler ? À quoi on doit faire référence pour ça ? Et je vais utiliser quelque chose qui va peut-être vous gêner, mais que je vais détailler après. Un truc tout bête, quand je lave mon fils, il est tout nu et il a aucune gêne. Alors vous dites, mais de quoi il parle ? Est-ce que nous, ce matin, on pourrait tous être nus sans aucune gêne ? Pourtant, on est entre frères et sœurs, on est entre chrétiens. Cet exemple, qui peut peut-être déranger, il est biblique. Il s'est passé quoi au moment de la chute ? La première chose qu'ont fait Adam et Ève, une fois qu'ils ont goûté à ce fruit défendu, une fois qu'ils ont péché, ils ont connu qu'ils étaient nus. Déjà. Mais ils ont eu honte. Honte de quoi ? Je veux dire, ils étaient mari et femme. Entre mari et femme, on peut être nu sans honte, sans gêne. Il y avait Dieu qui était là, d'accord. Mais excusez-moi, mais Dieu vous voit tout le temps, il vous voit aussi quand vous êtes nu. Hein. Est-ce que vous vous cachez en vous disant « mais Dieu me voit » ? Non. Et il n'y avait personne d'autre. Marie, femme et Dieu. Pourtant, ils ont connu qu'ils étaient nus et ils en avaient honte. Et les enfants, aucun problème. Ah, ils peuvent se balader nus dans la maison, ça, ça les gêne absolument pas. Ils peuvent être nus devant leurs parents, devant des étrangers, aucun souci, pas de gêne, pas de honte. Parce que, à cet âge-là, ils sont encore assez purs, assez innocents, sur tout un tas de domaines. Et c'est en ça qu'on devrait les ressembler. Pas qu'on devrait, évidemment, venir se mettre nus sans honte devant tout le monde en plein milieu de l'église, c'est pas l'idée. Mais on devrait leur ressembler parce que on devrait, normalement, être capable d'arriver à ce stade-là, d'arriver à ne plus éprouver de honte dans notre nudité. Mais évidemment, on est pécheur et on reste pécheur. Et quand bien même on demande pardon, quand bien même on essaye de s'approcher au maximum de Dieu, quand bien même on est sur le chemin de la sanctification et on prie pour cela tous les jours, il faut pas se leurrer. On va rester pécheur sur cette terre. Et celui qui dit « je ne pêche plus », la parole dit clairement, il est menteur. Ça ne veut pas dire que pour autant on doit arrêter d'essayer, mais on doit regarder ses enfants et regarder leur innocence, leur pureté, se dire « voilà vers quoi je dois tendre ». Plus que cela, on peut aussi regarder ses enfants et voir qu'ils ont une foi, parfois, qui nous déroute totalement. Notamment écouter les prières des enfants et écouter nos prières. Alors dans nos prières, on a plein de phrases génériques qui reviennent, on a des versets qu'on peut citer, on a des choses précises qu'on peut dire et demander. Mais les enfants, parfois, ils nous entendent. Les enfants, parfois, ont une foi beaucoup plus grande que nous et demandent des choses que nous-mêmes, on a arrêté d'essayer de demander. Et prient pour des personnes auxquelles on ne pense pas. Ma fille, je me souviens, quand elle était un peu plus jeune encore, toutes les personnes qu'elle pouvait avoir rencontrées dans la journée, elle pouvait prier pour eux. Moi, je vais prier pour qui ? Pour moi, déjà, ça je vous le dis. Hein. Pour ma famille, pour mon église, pour les gens que je connais. Quand mon chef me casse un peu la tête, je vais prier pour mon chef. Quand j'ai des élèves qui m'embêtent un peu, je vais prier pour mes élèves. Mais toutes les personnes que je vais rencontrer dans la rue, que je vais rencontrer comme ça, est-ce que je vais prier pour eux ? Ma fille priait pour son pédiatre. Quand elle allait chez le médecin. Elle priait pour la pharmacienne après qui lui avait donné les médicaments. Qui ici a prié pour une pharmacienne qui lui a donné des médicaments ? Et elle priait pour certaines choses, en étant persuadée que c'est bon, elle l'avait demandé. C'était fait. Les enfants ont parfois, comme ça, des réflexions et des choses qui nous dépassent et qui devraient nous inspirer. C'est comme cette histoire que peut-être vous connaissez aussi, où un village priait pour la pluie parce qu'il y avait eu un long temps de sécheresse et ils étaient allés se rassembler pour prier, et seule une petite fille était venue avec un parapluie. On est censé ressembler à des enfants. Non dans le côté humain des enfants, le côté égoïste, le côté impatient, le côté imparfait, mais leur ressembler parce qu'ils ont cette pureté, cette innocence, cette foi qui parfois nous fait défaut. Notamment la connaissance de Dieu, c'est bien, la connaissance de la parole, c'est bien, mais parfois, trop de connaissances, trop d'intelligence nous éloigne des choses simples et de la foi simple des enfants. Jésus va loin dans ce qu'il dit. Il nous dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Est-ce que vous avez reçu le royaume de Dieu comme un petit enfant ? Est-ce que vous avez vu comment un enfant reçoit quelque chose ? Ma fille, je peux lui faire un cadeau qui peut me coûter 1 ou 2 euros et ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Quand je lui ramène la joie qu'elle a sur son visage, elle va sauter partout, danser, elle va le montrer à tout le monde, elle va en parler à ses copines, etc. Pourtant, ça vaut rien. Moi, vous m'offrez un truc, je suis content, mais bon. Souvent, nous, on va accorder de l'importance au cadeau en fonction de la valeur pécuniaire de l'objet. Si vous m'offrez un livre, merci, je suis content, j'aime bien les livres. Vous m'offrez une voiture, alors là, ma joie va être plus grande. Parce que nous, on sait ce que c'est, et puis on a un salaire. Hein. De toute façon, si je veux m'acheter un livre, je peux m'acheter un livre. Par contre, une voiture, je ne vais pas m'en acheter tous les jours. Mais notre joie va dépendre souvent de la valeur de l'objet. Alors, pas uniquement, évidemment. Mais c'est vrai que même des toutes petites choses, un enfant va le recevoir avec joie. Et, comme je le disais tout à l'heure, ma fille, quand elle reçoit un truc, elle ne peut pas s'empêcher. Ben, on va appeler mamie. Hey, « Hé, mamie, j'ai eu ça. » Et elle va en parler à ses copines. Et maman rentre du travail. Et maman, regarde, regarde ce qu'on a eu. C'est rien. Mais cette joie est là et elle est communicative. Vous avez reçu Dieu. Mais est-ce que vous l'avez reçu comme un petit enfant? Est-ce que vous l'avez reçu dans la joie? Est-ce que votre joie est toujours là? Est-ce que vous avez communiqué cette joie à tous? Est-ce que vous avez appelé tout votre répertoire de téléphone? Et on en a des noms dans un répertoire de téléphone. Vous avez dit, hé, je suis dans la joie, j'ai reçu quelque chose. J'ai pas gagné au loto ou à l'euro million, on m'a pas offert une voiture ou un appartement. Plus que cela, j'ai reçu le pardon pour mes péchés, le salut, la vie éternelle, des choses bien au-delà de ce que le monde peut nous offrir. Dieu nous dit, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Si on vient vous voir et qu'on vous dit, bah, tes péchés sont pardonnés, t'es sauvé, et vous dites, bon, bah, c'est cool, ça c'est fait, il y a un problème. On est censé être tellement, tellement bas quand on pense à tous les péchés qu'on a faits. On a le moral tellement à zéro. Quand on commençait à les regarder, à les compter, et moi j'ai fait ça. Et j'avais dit à Dieu que je le ferais plus, et je l'ai refait, et encore. Tout ce poids-là, qui nous tire vers le bas. Jésus nous l'a ôté gratuitement. Où est notre joie? Ça s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il les a pris dans ses bras. Il les a bénis et il leur a imposé les mains. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez cette même amour des autres au point de prendre dans les bras de parfaits inconnus, de parfaits étrangers, de prier pour eux, de leur imposer les mains, de les bénir? Alors oui, souvent, il y a des moments où on va faire de l'évangélisation, il y a des gens qui vont venir, il y a des nouvelles personnes, on va être très accueillant, on va les aimer, on va prier pour eux, on va les encourager, on va les écouter. Mais est-ce qu'on le fait avec 100% des gens qu'on rencontre? Est-ce que celui qui vous est rentré dedans en voiture et qui en plus derrière va vous dire que non, on fait 50-50 pour le constat, hein, c'est votre faute aussi. Est-ce que celui-là, vous allez le voir et vous allez lui dire, écoutez, je vais prier pour vous et je vais vous bénir. Vous avez envie de le faire? Il y a 2 semaines, mon chef m'a annoncé que toutes les heures sup que j'avais fait, bah, c'était bien, mais c'était gratuit. C'est sympa, hein. Oh. Si on travaillait que pour l'argent, on ferait pas grand chose. Mais quelque part, est-ce qu'à ce moment-là, j'ai envie de lui dire, ah, merci. Je vais prier pour vous, soyez bénis. C'est dur, hein. Alors, c'est dur avec certaines personnes et dans certaines situations. C'est dur parce qu'on est humain. Mais si un enfant peut prier pour toutes les personnes qu'il rencontre sans réfléchir, sans jugement, on devrait être capable de faire comme des enfants et de prier pour eux aussi. Le résultat est là, Jésus les touche et les bénit. Mais Jésus touche et bénit ceux qui sont venus à lui. Plein de gens sont venus vers Jésus pour être guéris et ils sont repartis guéris. Mais on peut penser aussi à Naaman, le Syrien, qui est venu jusqu'à Élisée et qui allait repartir les mains vides. Parce que à cause de raisonnement humain, il a failli passer à côté. Il n'a pas reçu comme un enfant. Il a jugé. Il a utilisé son intelligence humaine, qui devait être certainement très grande, vu la position qu'il occupait, pour au final se dire que non. Moi, je veux pas faire ça. Je suis venu pour autre chose. Il a failli passer à côté de la guérison, mais heureusement, certains l'ont amené à écouter à cette guérison. Tout comme ces petits-enfants qui n'étaient pas en capacité d'aller seuls voir Jésus. Je peux vous le dire, hein, si Jean-Baptiste, on l'emmène pas en voiture le matin, il vient pas. Il n'est pas du tout en capacité de le faire. Et comme ces gens qui ont conseillé Naaman et qui lui ont dit « Non, écoute ce qui t'a été dit, c'est simple. Si c'était compliqué, tu l'aurais fait, c'est simple, fais-le. » On devrait être, nous, dans la même situation. On devrait être capable d'amener des gens à Dieu. Pas juste de venir nous-mêmes, mais de se dire « Voilà, ces petits-enfants ne sont pas dans la capacité de venir seuls, il faut les amener. » Mais il y a aussi parfois des êtres humains qui sont plus des petits-enfants, mais qui sont pas non plus dans la capacité seuls de comprendre, de réaliser, de connaître certaines choses que Dieu nous a fait la grâce de nous révéler. À nous d'aller les chercher. À nous, évidemment, comme un enfant, d'y aller sans aucun a priori, sans aucun jugement, d'y aller avec simplicité. Naaman a failli passer à côté parce qu'il attendait des choses plus complexes. Alors si on commence à dire, alors si tu veux faire partie de l'Église, il y a tel formulaire à remplir en 15 exemplaires, il nous faut une signature, il faut une signature de tes parents, il faut que tu aies au moins 3 personnes qui te recommandent, etc. Si on commence à faire des choses comme ça extrêmement complexes pour pouvoir juste simplement être enfant de Dieu, on passe à côté. Mais simplement, tu veux venir au culte? Viens, la porte est ouverte. Bon, en ce moment, tu dois t'inscrire, mais c'est pas nous, hein, c'est l'État français. Sachons faire de même, amenons les autres à Jésus. Regardons-les avec des yeux d'enfant. Sachons aussi que nous, on le croit pour nous-mêmes. Approcher de Jésus, c'est notre bien, c'est notre joie. C'était le message qui m'était venu en lisant ce passage et en me faisant des réflexions, notamment en regardant mes enfants. Je me dis que on a un Père dans le ciel qui nous aime bien plus que ce que nous on pourra aimer nos enfants. Et ce Père, il nous ouvre les bras, comme pour ses petits-enfants. Il n'est pas là en train de nous dire « J'ai vu ce que tu as fait hier chez toi. Je sais ce que tu as pensé dans ta tête. J'ai vu les insultes que tu as pensées sur telle personne que tu as croisée. » Il voit tout, hein. Il sait tout. Mais est-ce que quand Dieu est rentré dans le jardin d'Éden et que Adam et Ève se cachaient, il est venu leur dire « J'ai vu ce que vous avez fait. Vous avez désobéi. » Qu'est-ce qu'il leur a dit en premier? Ils se sont cachés eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont voulu s'éloigner de Dieu. Parce que la honte, et le diable joue beaucoup là-dessus, la honte de nos péchés parfois peut nous éloigner de Dieu. Mais Dieu, au contraire, est là, comme un papa aimant. Alors parfois pour punir, ils ont été quand même chassés du jardin d'Éden, mais surtout pour nous aimer. Et pour ceux qui sont parents, on le sait très bien, quand on punit son enfant, c'est qu'on l'aime. Moi j'imagine que si demain je décide qu'en cours il n'y a plus aucune règle à suivre, que je ne sanctionnerai plus aucun élève, vous pouvez ne pas faire votre travail, pas de problème. Oh, vous pouvez crier, vous insulter, frappez-vous, aucun souci, je ne sanctionnerai rien. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va considérer que je fais bien mon travail? Ah, je pourrais dire, hein, c'est les discours qu'on nous tient aujourd'hui, soyez tolérants, soyez bienveillants. Et parfois, on pousse tellement les choses, la tolérance à l'extrême, que bah, dès que vous n'êtes pas d'accord avec une chose, ah, vous êtes intolérant. C'est pas dans l'air du temps du tout, hein, d'être intolérant. Et pareil, nous, dans notre métier, on n'arrête pas de nous dire « Soyez bienveillant. » « Oh, c'est une copie blanche, encouragez-le. » C'est des vrais propos d'inspecteur. Il faut encourager. Mais à force aussi, bah, à un moment donné, on passe à côté du vrai message. Le monde d'aujourd'hui nous balance plein de choses. Et ce qui est bien, c'est que si vous regardez il y a 50 ans, ou il y a 200 ans, ou il y a 300 ans, bah ça change. Des fois, ça, c'est bien, des fois, non. Et nous, on a un message qui est le même depuis des millénaires. Et qui, comme on le disait tout à l'heure, il a envie de parler. On l'a appelé Jean-Baptiste. Il prêche dans le désert. Et nous, on a un message qui est le même depuis des millénaires et qui est ultra simple. Il n'y a pas besoin d'études, il n'y a pas besoin de faire 8 années de doctorat en théologie pour comprendre que Jésus nous a aimés, qu'il est venu mourir pour nous. Pour comprendre que Dieu, dans ce passage, il ouvre les bras des petits-enfants, il les bénit, mais ce n'est pas que pour des petits-enfants, c'est pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, je voulais vous laisser ça, que vous soyez maman ou pas, que vous soyez papa ou pas. Regardez les petits-enfants et essayez de leur ressembler. Pas pour tout. Pour ce que Dieu veut nous inciter à faire. Et je pense qu'on peut remercier notre Seigneur de cette grâce qu'on a eue, qu'il nous a accepté comme on était. C'est un célèbre fast-food qui dit « Venez comme vous êtes », n'est-ce pas ? On a un peu cette idée-là. Dieu, il nous dit pas « Non, tu peux pas venir. Ben non, toi, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est fini maintenant. » Dieu nous dit simplement « Viens ». On l'a chanté ce matin « Viens, ne tarde plus, adore. Ne tardons plus, rachetons le temps, comme la parole nous le dit. Amenons des petits-enfants et des moins petits-enfants à Dieu. Et acceptons tout ce que Dieu nous donne chaque jour avec cette joie et cette simplicité de cœur. » Je vais terminer par la prière et je te laisserai la place, Jorgan, pour terminer. Oui, merci Seigneur, parce que tu n'es pas venu chercher une élite juive qui était capable de réciter la parole par cœur, mais tu es venu vers des gens qui étaient pécheurs, des gens qui étaient mal considérés, qui étaient rejetés de leur société, des lépreux qui se retrouvaient chassés des villes, des voleurs, des menteurs, des collabos, comme on pourrait dire. Tu es venu les chercher tous, comme ils étaient, et tu les as pris avec toi, Seigneur. Merci parce que tu en as fait de même pour nous. Tu es venu nous chercher. Tu nous as montré, Seigneur, que tu étais mort pour nous. Aide-nous, Seigneur, à savoir faire de même, à ne pas regarder à ce que les yeux voient, mais à regarder comme toi au cœur et à voir tous ces cœurs qui nous entourent et qui ont tant besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à, avec simplicité, à prier pour ces personnes, à leur parler, à leur montrer la joie qui est en nous. Alors montrer qu'on ne cherche pas des adhérents à un groupe, qu'on ne cherche pas des membres pour une secte, qu'on ne cherche pas à gonfler nos finances avec de nouvelles personnes, mais qu'on cherche simplement à répandre ton amour et ta bonne nouvelle sur cette terre. Aide-nous dans notre quotidien, aide-nous en tant qu'Église, aide-nous à faire ce qui doit être fait, Seigneur. Merci parce que tu nous as acceptés, aide-nous à accepter tous ceux que tu nous enverras, quels qu'ils soient, et à savoir leur montrer tout le bien que tu as pu nous faire. Merci encore une fois parce que tu es venu sur cette terre, comme on l'a pu le voir encore aujourd'hui par cette histoire, et comme pour ce petit serpent, tu nous as donné toutes choses, Seigneur. Et on veut te rendre gloire et on veut communiquer cette joie à tous. Amen.